C'est vrai qu'aujourd'hui, au milieu de cette société, ben, je ne comprends plus rien.
Vous leur faites faire un virement de la somme que vous devez, ça pose pas de problème.
Oui, mais moi, je voulais mon chéquier, moi, c'est pas question de ça.
Le premier dentiste est où ?
Ben, il n'y en a pas. Il est parti à la retraite.
Ça n'a plus.
C'est une journée spéciale qui s'ouvre donc sur RFI à quelques jours de la fin officielle du grand débat national en France, lancé en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Nous parlons services publics, transport, école, hôpital, poste, gendarmerie, tribunal, ces services qui se rétrécissent, qui parfois ferment, qui s'éloignent au nom de la réorganisation, au nom des économies budgétaires. Les habitants des zones rurales, nous sommes avec eux ce matin, au travers des habitants du pays d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Et avec nous, ces toutes prochaines minutes, Myriam Fougère, maire d'Ambert depuis 2014, conseillère régionale. Bonjour Madame le maire, merci de nous accueillir.
Bonjour Arnaud.
Également avec nous, deux membres du comité de défense des services publics Livradois-Forêt, c'est la région. Sylvie Aubert-Monnet, retraitée de la fonction publique hospitalière. Bonjour Madame.
Bonjour.
Et Didier Liénard, directeur d'école en retraite. Bonjour Monsieur.
Bonjour.
Merci à tous d'être avec nous en direct sur RFI.
Bon, ben, au pays de la liberté, égalité, fraternité, j'estime qu'on n'est pas égaux. J'ai vu disparaître des services de l'hôpital, des services de la poste, le centre des impôts, des services de l'EDF, des services de la SNCF, le tribunal a disparu, les écoles sont menacées. Quand je suis très en colère, je pense qu'on assiste à un génocide dans nos campagnes.
Un génocide dans nos campagnes, disait cette retraitée. C'était lors du débat organisé ici à Ambert il y a quelques semaines. Vous y étiez, Myriam Fougère, en tant que maire d'Ambert. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous comprenez cette colère mêlée de désespoir ?
Bien sûr que je la comprends. Je crois que depuis des années, l'État fait des coupes sombres sur nos territoires ruraux parce que est-ce que c'est plus facile parce qu'on est plus loin ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un vrai constat. Cette dame a bien énuméré tout ce qui a fermé au fur et à mesure ou tout ce qui s'est rétréci, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense que il est important justement de le dire. Et à l'heure actuelle où nous sommes maintenant plus connectés, nous avons la possibilité d'informer. Et encore un grand merci à RFI d'être ici. Et je sais que ici autour de la table, nous sommes tous très très honorés de votre venue. Je pense que nous sommes en droit et en devoir de dénoncer ces choses-là. Certes, les dénoncer, mais ensuite à nous aussi, selon notre statut, de lutter ensemble.
De lutter, d'inventer les solutions. On
Exactement.
Va évidemment y venir. Madame le maire, Ambert, c'est une petite sous-préfecture, la seule du département qui n'est pas desservie par l'autoroute. Il y a une gare qui n'est plus exploitée par la SNCF depuis plus de 30 ans. Des services donc qui s'éloignent. J'ai envie de vous dire, mais comment vous faites pour répondre à ce qu'attendent vos administrés en tant que maire ?
Je crois que nous sommes des personnes, des habitantes et des habitants qui trouvons des solutions, qui innovons.
Ici, il y a 6800 habitants à peu près.
Exactement. Ah, nous perdons un peu de population chaque année. C'est une perte un peu perlée, mais qui a quand même. C'est un territoire qui est très très isolé. Vous l'avez dit, mais qui a su se fédérer. Et je crois que c'est vraiment aussi une des un des avantages. Et en tout cas, c'est assez remarquable de voir cela. Ensuite, il faut pas oublier que c'est pas parce que nous nous sommes fédérés que nous avons trouvé que nous sommes toujours bien. Il faut dire les choses qui ne vont pas. Et les administrés sont là pour le dire. Il y a des lanceurs d'alerte. Il y a des associations qui sont là-dessus. Et je crois que ça c'est important. Ensuite, ensemble, nous pouvons arriver. Nous allons pouvoir écrire, faire des courriers aux différents services, aux décideurs qui, de Paris, ont dit, ben, finalement, il n'y a plus besoin de maternité. Je pense qu'on en reparlera. Il n'y a plus besoin de tribunal. Il n'y a plus besoin, voire même de commandement de gendarmerie. C'est pour ça que nous avons voulu et nous sommes toujours en alerte et prêts à nous fédérer.
Alors, les administrés ont la parole, les Français ont la parole. Il y a ce grand débat organisé depuis la mi-janvier à l'initiative du président de la République. Ici, le grand débat, il avait lieu le 8 février dernier. C'était un vendredi soir à la Maison des Jeunes. Voici ce que notre reporter Bruno Faure a pu y entendre.
Je trouve proprement scandaleux qu'on ait collé de la CSG sur le dos des retraités et qu'en plus, les retraites ne sont pas indexées sur le coût de la vie. Ça, c'est un grand regret et je voudrais qu'on rende davantage justice aux retraités. Voilà.
Merci.
On est en France, c'est la 6e puissance économique mondiale. On a des industries qui fonctionnent très bien, qui apportent beaucoup de richesses, où il y a le taux d'imposition le plus élevé, ce qui veut dire que les Français, malgré ce que notre président dit, font énormément d'efforts parce qu'ils sont attachés aux services publics. Et on s'aperçoit que ces services publics, eh bien, ils sont démantelés tous les jours. Donc la question est, où passe cet argent ?
Bon, moi je voulais parler de l'ISF. L'ISF et la gratuité de la chasse à courre sont pour moi le signe d'un choix, le choix des plus riches. C'était soi-disant présenté comme une politique de ruissellement. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus une politique d'évaporation. Pour moi, remettre l'ISF serait détourner le regard de ceux qui n'en ont plus besoin, parce qu'ils en ont assez pour vivre, pour regarder du côté de ceux qui sont dans la misère.
La seule chose qui ne va pas, là, par rapport aux personnes âgées, leur laisser un peu de dignité, c'est pas grand-chose. Pour qu'ils marchent, pour qu'ils parlent aux gens, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Non, on ferme tout. Mais où va la société ? On veut quoi ? Qu'est-ce qu'on veut pour les milieux ruraux ? Qu'on en meure ? Moi, vos villes, je n'irai pas. C'est négatif. Je préfère mourir ici. Maintenant, il y en a un petit peu marre.
Merci.
Voilà les choses entendues lors du débat organisé ici à Ambert il y a quelques semaines et autour de cette table, chacun souriait parce qu'on reconnaît les voix des uns et des autres, des voisins et de ceux avec qui on se bat. Didier Liénard, vous êtes directeur d'école en retraite, membre donc de la commission éducation au comité de défense des services publics. Comité de défense, est-ce qu'on pourrait même dire comité de résistance ?
Tout à fait, on est dans une logique de résistance aujourd'hui. Je voudrais revenir sur les propos de Myriam Fougère, Jacques, qui pointait la responsabilité de l'État dans la situation déliquescente dans laquelle se trouvent les territoires ruraux. Ce n'est pas l'État, ce sont les politiques qui ont été menées depuis 40 années qui conduisent à ça. Conduites par M. Sarkozy, conduites par M. Hollande et conduites par M. Macron. On ne peut pas faire l'impasse sur les responsabilités politiques que ces différents gouvernements ont dans la casse, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement, la casse de nos services publics dans nos territoires ruraux. Alors ce qui est sûr, c'est que on est aujourd'hui en résistance parce qu'en fait, toutes les propositions qui nous sont faites conduisent à une réduction des services publics au nom de la sacro-sainte nécessité de faire des économies. Et on est aussi dans une logique politique où on vise à distendre les liens entre les habitants et les élus. Sur la dernière période, on a vu des réformes en profondeur, si on peut appeler ça des réformes, des structures administratives et politiques sur notre territoire, grandes régions, départements avec des conseillers départementaux éloignés de fait de par leur engagement des gens et les grandes com-com. Je voudrais insister sur ce point-là. La question de la démocratie est aussi une question centrale. On est en train de perdre la possibilité qui était donnée encore aujourd'hui jusqu'à présent aux habitants et aux populations de pouvoir intervenir dans le champ du politique.
On perd le contact, c'est ça ce que vous nous dites, Didier Liénard. On perd le contact. Sylvie Aubert-Monnet, vous êtes retraitée de la fonction publique hospitalière, vous militez au sein de ce même comité de défense des services publics. Vous qui avez été aide-soignante, comment vous l'avez vu évoluer l'hôpital de la région ?
Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas naître ici, mais d'adorer cette ville et de rester ici. Oui. Et d'avoir pu travailler toute ma vie ici. Et j'ai vu cet hôpital grandir, je l'ai vu s'embellir, j'ai vu la maternité se créer, j'ai vu tous les services se créer. Et malheureusement, j'ai vu aussi ces mêmes services se fermer juste au nom d'une rentabilité.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est fermé ? La maternité est partie ?
La maternité est partie. Le bloc opératoire de nuit, le bloc opératoire de jour, les soins intensifs, la chirurgie. Donc en cascade, le gouvernement, de temps en temps, quel qu'il soit, hein, le gouvernement, depuis de très longues années...
Oui, c'est ce que disait Didier Liénard. Voilà. Hein, on n'est pas. On parle de la crise des Gilets jaunes, ça a 4 mois, mais alors, ce dont nous parlons, ça a des années.
Ça a des années instaurées bien avant. Donc tout ça s'est installé. Oh, le gouvernement, les gouvernements successifs ont été très gentils. Ils nous ont donné un SMUR à la place de... On nous donne...
Service médical d'urgence.
Voilà, ouais. Service médical d'urgence. On nous donne toujours quelque chose à la place de... Mais on nous a tellement enlevé avant... Que de toute façon, nous, citoyens du monde rural, on ne veut pas de l'aumône. On veut simplement être comme tous les citoyens de toute la France, d'être dans les mêmes états d'égalité, c'est tout. Et quand on enlève le service public au plus près d'une population, on entend souvent ce mot proximité. Il faut arrêter de le bafouer. Cette proximité, on est en train d'en jouer, mais on est en train de l'éloigner. Et ce qu'on veut juste, c'est que... tous les services publics sont le socle pour tous les individus, quels qu'ils soient riches, pauvres. Et donc, c'est ce socle-là dont on a besoin.
C'est le bien commun. C'est le bien commun qu'on éloigne.
C'est le bien commun.
Madame le maire, Myriam Fougère, quand la maternité s'en va, c'est énorme pour une commune, une maternité qui s'en va. Ça a des conséquences incroyables.
Bien sûr, je crois que ça a été un vrai traumatisme. C'était en 2006, hein, oui, c'est ça.
Le 31 juillet 2006.
C'était en 2006. Et c'est vrai que la population s'est mobilisée. Moi, je souhaite quand même aussi attirer l'attention de notre responsabilité, nous, en tant que citoyens. Parce que nous vivons, et Madame Aubert-Monnet l'a dit, nous vivons sur ce territoire. Moi, j'y suis née sur ce territoire. J'ai eu la chance d'y naître et de pouvoir aussi lutter pour mon territoire. Il faut quand même se dire que nous avons une responsabilité. Tous les citoyens...
Dans quel sens ?
Dans le sens où, quand une maternité ferme, c'est parce qu'il y a moins... d'accouchement aussi, oui. C'est la raison qu'on nous affirme.
Bien sûr.
Mais c'est aussi parce qu'il y a des gens sur le territoire qui font le choix de ne pas aller, des femmes, je parle des
oui,
femmes,
j'entends.
De ne pas aller accoucher à la maternité. Et donc là...
Donc il y a des services publics qui sont là et il faut s'en servir.
Exactement.
Pour que...
C'est une responsabilité
pour les faire vivre.
De tous les citoyens.
Alors ça, on va y revenir là-dessus dans les minutes qui viennent, bien évidemment. Myriam Fougère, vous restez avec nous. On vous retrouvera dans une heure pour évoquer les solutions. Je voudrais encore me tourner vers Didier Liénard. Comment est-ce que vous luttez ? Vous avez dressé le constat. Comment on lutte au sein d'un comité de défense comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? On manifeste quand une fermeture est annoncée ?
Oui, vous êtes dans le juste, là, dans le vrai. Malheureusement, aujourd'hui, le collectif vous le disiez, en résistance, sur la défensive en permanence, parce que les mauvais coups n'arrêtent pas de pleuvoir.
Oui.
Et la population se mobilise quand ces mauvais coups tombent. Après, la grande question qui nous est posée, c'est quand on commence à essayer de construire des alternatives
communes. Inventer l'avenir, c'est plus difficile.
C'est plus difficile, d'autant plus qu'on n'est pas dans cette logique-là face à nos dirigeants politiques. On est dans une logique toujours de confrontation et jamais dans une logique de construction. Ce qui fait que un certain nombre de propositions que le collectif de défense des services publics a pu faire n'ont jamais été entendues. En ce sens-là, je ne pense pas que les conditions qui ont été mises pour organiser ce grand débat dont vous parliez tout à l'heure changent grand-chose, parce qu'elle est dans la même logique. C'est-à-dire on nous fait croire qu'on peut parler, mais une fois qu'on a parlé...
Vous pensez que rien ne sortira de ce grand débat,
Didier Liénard ?
Vous-même qui vous dites un gilet jaune et chaque samedi vous manifestez
tout
depuis
fait,
le
ouais.
17 novembre.
Tout à fait.
Pour autant, tous les deux, Sylvie Aubert-Monnet, Didier Liénard, vous êtes attaché à ce territoire, vous ne voulez pas partir.
Absolument.
Les services publics partent, mais vous restez.
Bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr, on restera.
Bien sûr.
Et s'il faut que quelqu'un éteigne la lumière, ce sera nous. Ce sera personne d'autre.
Merci à tous les deux d'être venus témoigner ce matin. Sylvie Aubert-Monnet, retraitée de la fonction publique hospitalière, Didier Lienard, directeur d'école en retraite, tous deux membres de la commission éducation, du comité de défense des services publics. Merci d'être venus témoigner de votre réalité, et c'est ce qu'on l'on voulait entendre ce matin sur RFI. Nous poursuivons le débat tout au long de la matinée, c'est jusqu'à 9h heure de Paris. Nous sommes à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. RFI, il est maintenant 7h30 à Ambert. Nous sommes toujours en direct d'Auvergne pour l'ouverture de cette journée spéciale consacrée au service public après des semaines du mouvement des Gilets jaunes à l'approche de la fin du grand débat national. Et nous allons continuer à dresser le constat avec nos invités jusqu'à 8h. André Chassaigne, député communiste de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, président du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale. Vous êtes le député de la zone. Oui. Bienvenue et bonjour.
Bonjour.
Gérard Gondol, boulanger-pâtissier à Ambert, président de l'Union des commerçants et artisans du pays d'Ambert. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Stéphane Ménager, délégué de parents d'élèves à Marsac en Livradois, quelques kilomètres d'ici. Bonjour.
Bonjour.
Nous irons aussi ailleurs en Europe dans les minutes qui viennent pour comparer la situation avec celle de l'Allemagne, avec Nathalie Versieux, et celle de la Grande-Bretagne. Nous serons avec Muriel Delcroix. C'est important de faire des comparatifs. Il y a peut-être des leçons à prendre ailleurs. André Chassaigne, on vient d'entendre en ces dernières minutes le malaise, la colère des habitants face à l'érosion des services publics en zone rurale, comme ici. J'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous faites, vous, député ?
J'irai, excellente question. Je crois qu'un député, avant tout, il doit tenir, comme on dit, les deux bouts. C'est-à-dire être sur le territoire en accompagnement des luttes qui peuvent se conduire, en accompagnement des projets de territoire, des propositions qui peuvent émerger, apporter peut-être, sans doute, des explications, servir de relais par rapport à ces combats et aussi aux propositions qu'il faut porter. Et d'un autre côté, à l'Assemblée nationale, faire en sorte... Que je défende avec les amis de mon groupe parlementaire et d'autres, je défende,
hein,
bien sûr. Que je défende une conception de l'aménagement du territoire, voilà, et du service public.
L'aménagement du territoire, la ruralité, c'est pas une question de chapelle politique. On est bien d'accord, André Chassaigne, il n'y a pas que vous qui la défendez.
Bien sûr, mais quoi qu'il en soit,
bien sûr.
Ce qui est très important, j'utilise souvent une expression qui peut paraître un peu presque vulgaire. Je dis qu'il faut tenir à Paris le même discours que l'on tient au cul des vaches. Ce que je veux dire par là, c'est quand on s'exprime localement pour défendre un service public ou pour faire des propositions sur un service public, encore faut-il que dans ses choix politiques au niveau du Parlement, on s'oppose à la réduction des dépenses publiques. Parce que qui dit réduction des dépenses publiques, ça veut dire, bien sûr, sur le terrain, des conséquences concrètes.
Il faut être cohérent.
Il faut être cohérent.
Entre parole et acte.
Et je regrette trop souvent que cette cohérence n'existe pas
et
qu'il y ait un double discours.
Vous voulez dire que le député nous fait un peu de démagogie dans sa circonscription, une fois remonté à Paris, bon, ben, consigne de groupe...
Oui, puis une conception du libéralisme, ouais. Une conception qui consiste à dire les services publics, ça coûte trop cher, il faut donc faire glisser le service à la population vers le privé. Et ça a aussi des conséquences sociales extrêmement importantes.
Vous étiez, vous, à Ambert, hein, il y a quelques semaines, lors du grand débat, dont on écoutait des extraits. Vous n'avez pas voulu prendre la parole spécifiquement. Pourquoi ?
C'est un choix que nous avions fait avec d'autres élus, d'être davantage à l'écoute pour ne pas monopoliser un discours. C'est la parole dans
vous
une assemblée.
Vous l'avez souvent,
voilà.
La parole.
Et la parole, oui, dans une assemblée, elle peut être écrasée par la parole des élus. Mais c'était aussi le fait que... Il n'y a pas eu de question directement qui me concernait en tant que député. J'aurais pu
si j'avais été interpellé,
mais c'est un choix qu'on avait fait, tous les élus, différentes sensibilités, de ne pas monopoliser le débat.
Alors, on va faire entrer l'accusé, si je puis dire. L'accusé, c'est l'État. Et ici, il est incarné par une sous-préfète, Patricia Valma. Elle est ici depuis juin 2016. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous en direct ce lundi pour cause de réunion de travail un peu loin d'ici, mais nous sommes allés la rencontrer et je vous propose d'écouter ce qu'elle nous dit des services publics, du rôle de l'État, de sa perception, de son rôle ici.
En fait, il y a quand même des priorités. On a fait ce qu'on appelle un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité aux services publics. Donc c'est un document cadre qui a été établi dans le cadre de la loi NOTRe, qui permet en fait de faire des enquêtes auprès de la population, d'en s'entretenir avec des élus. Donc le résultat de ces enquêtes ont montré quoi ? Les ruraux estiment que en priorité, il leur faut Internet, le numérique. En numéro 2, ce sont les soins, l'offre de soins. En numéro 3, c'est toutes les problématiques des petits pôles ruraux, les commerces. Donc les gens sont voilà, très attachés à ces services. Et après, on trouve l'école, on trouve les questions de services publics de manière générale. Mais voilà, le numérique en premier lieu qui est ressorti et l'offre de soins.
L'État, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il peut faire ?
Alors l'État agit et donc il y a quand même des outils, on n'en parle pas suffisamment. Une impulsion dans la mise en place de maisons de service au public. Donc en fait, ce sont des lieux où on peut mutualiser cette présence de service au public, offrir un premier accueil. Donc 1000 maisons de service au public ont été installées sur tout le territoire français. Ici, on en a 9. Qui permet d'avoir un lien social et éviter que des gens soient complètement exclus de ces services et puis quelquefois de l'accès aux droits. Donc aujourd'hui, la question c'est d'évoluer dans la forme de service. Je pense que c'est vraiment ça, de leur offrir un service mais qui évolue dans sa forme. Les maisons de service au public, c'est une solution. Voilà, les gens demandent voilà d'avoir contact avec de l'humain parce que tous ces automates enfin, comme son nom l'indique, c'est tout automatique. Et du coup, enfin, les ordinateurs, enfin, voilà, des fois, ils trouvent pas la solution à votre problème.
Sur un plan personnel, vous vous sentez plus utile qu'ailleurs en tant que représentante de l'État ?
Ah, tout à fait. Donc, moi, je trouve vraiment que j'ai une utilité parce que ce sont des territoires fragiles, des personnes qui ont besoin d'État, plus d'État. Et je vois l'intérêt de la mission de service public qu'on m'a confiée. Et en fait, il y a une espèce de symbiose même entre les élus et l'État que je représente qui donne un sens aussi à ma mission. Et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment une révélation. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé en milieu urbain, mais je sens vraiment que ma mission est autre dans ces territoires qui ne sont pas abandonnés. En fait, il y a quand même des prix.
Le témoignage de Patricia Valma, qui est la sous-préfète d'Ambert, témoignage recueilli il y a quelques semaines ici même par Bruno Faure, qui était venu en poisson pilote avant notre délocalisation en ces lieux. Vous l'entendez dire symbiose avec les élus, André Chassaigne, vous qui êtes député. C'est vrai ? C'est possible ?
Ah oui, bien sûr que c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, on est très très attaché au maintien d'une sous-préfecture sur cet arrondissement. Il y a un travail réel qui est conduit par les sous-préfets successifs. Et je dirais que nous avons actuellement une sous-préfète qui est très, très impliquée, qui travaille avec les élus locaux, qui essaie de faire émerger des projets, qu'il fait avec détermination dans des échanges continuels.
Son attachement quasi sentimental avec le territoire et avec ses habitants.
C'est important. Hein, oui, je crois qu'il y a en plus de ça une culture qui est une culture de territoire et avec une volonté très très forte de pousser à l'extrême de ce qui est possible de faire, et quelquefois c'est limité, mais elle le fait véritablement avec beaucoup de volonté et c'est vrai, en symbiose avec les élus locaux. Et
donc l'État n'est pas forcément tout le temps le grand méchant ?
Il ne s'agit pas de mettre en cause l'État. Je suis, pour ma part, très attaché, au contraire, à la fonction de l'État dans notre pays, les fonctions régaliennes. Je pense que je ne dis pas qu'il y a trop d'État. Je dis très souvent qu'il n'y a pas assez d'État. Encore faut-il que l'État mette les moyens à disposition.
Que l'État fasse son boulot, André Chassaigne, c'est ça ?
Je crois que les fonctionnaires, les représentants de l'État font leur travail. Encore faut-il que les politiques mises en œuvre, notamment par les parlementaires dont je suis, donne les outils, donne les moyens pour accompagner le développement local.
Alors, je vais me retourner dans un instant vers nos autres invités. Hein. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Mais on veut parler des services publics, de leur érosion, puisque c'est le thème de cette journée sur RFI, leur effritement dans les territoires. Et on va voir si on assiste au même phénomène et de quelle façon ailleurs en Europe. C'est intéressant d'avoir ce regard extérieur. Et sur Radio France Internationale, il s'imposait. Je vous propose d'aller voir comment ça se passe au Royaume-Uni et en Allemagne dans les minutes qui viennent. D'abord, l'Allemagne, et on rejoint à Berlin Nathalie Versieux. Bonjour Nathalie.
Bonjour Arnaud.
Les disparités régionales, elles sont importantes au sein du territoire allemand, entre l'Ouest, très peuplé, et l'Est, c'est l'ex-RDA, menacé de désertification, là aussi, en termes de services publics.
Oui, effectivement. Alors, il faut bien voir qu'il y a une grande inégalité de répartition de la population en Allemagne. Elle est plus harmonieusement répartie sur le territoire en général. Le pays ne compte que 4 villes de plus d'un million d'habitants, Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, et un réseau dense de 81 villes moyennes de plus de 100 000 habitants. 22% des Allemands sont considérés comme ruraux selon les définitions de la Banque mondiale. La population rurale en Allemagne est en diminution lente mais constante, même si à l'ouest, les villages conservent une certaine vitalité. Les choses se voient très bien quand on voit une photo aérienne de nuit. On voit bien cette spécificité allemande avec les zones habitées, donc éclairées, qui semblent réparties sur l'ensemble du territoire à l'ouest, tandis que les zones non éclairées sont essentiellement le fait de l'est du pays et dans une moindre mesure du nord.
Nathalie, qu'est-ce qui explique cette désertification de l'ex-RDA, l'ex-Allemagne de l'Est ?
Le départ massif, tout simplement, de millions de jeunes, surtout les femmes jeunes et diplômées, vers les bassins d'emploi du sud et de l'ouest du pays. À bien des égards, les zones rurales de l'ex-RDA sont considérées aujourd'hui comme désertées.
Et comment les services publics se répartissent-ils sur le territoire ?
Alors, on trouve le même clivage au niveau des services publics entre l'ouest et l'est du pays, avec une bonne densité de transports, de services publics tels qu'écoles, jardins d'enfants, hôpitaux, états civils, bibliothèques, centres sportifs, tandis que l'ex-RDA est devenu à bien des égards un désert rural, notamment dans le Brandebourg, la région agricole qui entoure Berlin, la Saxe ou la Saxe-Anhalt.
Et tout ça a des conséquences politiques, hein. Ce sont ces régions qui ont connu la plus forte poussée de l'extrême droite aux dernières élections.
Oui, tout à fait. Le parti d'extrême droite AFD a fait en partie campagne autour de cette désertification des zones rurales de l'ex-RDA. Le parti a su également localement profiter de cette faiblesse de l'État. Dans bien des villages du Mecklembourg ou de la Saxe, les seuls services de proximité qui restent, c'est une bibliothèque ou un jardin d'enfants associatif qui ont été fondés à l'initiative de politiciens de l'AFD et qui sont gérés de façon plus ou moins bénévole, là encore par des gens de ce parti d'extrême droite.
Merci à vous Nathalie Versieux, en direct de Berlin. André Chassaigne, on entend le modèle allemand qu'on nous vante, pas tant que ça, faiblesse de l'État aussi à l'Est. Hein.
Oui, je connais très bien ces questions-là. Je reçois d'ailleurs cet après-midi à l'Assemblée nationale, à la suite d'une intervention que je vais faire sur un accord franco-allemand, un camarade, un collègue avec qui je suis jumelé. Ouais. Comme peuvent l'être des lycéens, qui s'appelle Thomas Nord et qui est député Die Linke de la région de Brandebourg. Et donc je suis allé sur place et j'ai découvert effectivement des problématiques qui sont très comparables à celles que l'on connaît dans nos territoires ruraux.
Alors des problématiques comparables, on va aller maintenant à Londres. On rejoint Muriel Delcroix. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors au Royaume-Uni, et on le sait, hein, la situation n'est pas brillante et pendant de nombreuses années, c'est surtout le NHS, le système de santé publique, qui était le grand malade. Et maintenant, les services publics dans leur ensemble se retrouvent les uns après les autres sur une pente qu'on peut dire descendante.
Oui, la semaine dernière a été particulièrement noire pour le gouvernement, alors que nombre de responsables ont chacun à leur tour dénoncé les dysfonctionnements dans leur secteur. Face à la recrudescence depuis un an de crimes à l'arme blanche, la police, la première, est sortie de son silence. Ses responsables ont critiqué la baisse drastique de ses effectifs, conséquence directe de la politique d'austérité poursuivie depuis 2010 par les gouvernements conservateurs. Et puis jeudi dernier, même cri d'alarme, cette fois de la part des enseignants. La directrice d'un collège londonien a révélé qu'elle était obligée de nettoyer elle-même les toilettes de l'école et de servir les repas à la cantine, faute d'un budget suffisant. Et les difficultés sont générales. Outre les hôpitaux et le NHS, en déficit chronique depuis décennies, vous l'avez dit, toutes les administrations locales sont touchées. Une enquête vient de révéler que la baisse des financements en provenance de l'État central, moins 60% quand même depuis 2010, a obligé les conseils locaux à vendre des parcs, des bibliothèques, des piscines ou encore des centres sociaux pour redresser leurs comptes. Certaines prisons dont la gestion avait été confiée à des entreprises privées ont dû être renationalisées après de graves incidents. Et l'État est sous pression maintenant pour renationaliser certaines lignes de chemin de fer, pourtant privatisées dans les années 80.
C'est donc la politique d'austérité, hein, qui est montrée du doigt outre-Manche. Que répond le gouvernement de Theresa May ?
Le problème du gouvernement, il tient en un seul mot, Brexit. Depuis le référendum en 2016, le gouvernement est accaparé par la sortie de l'Union européenne et tous les autres dossiers, aussi urgents soient-ils, sont laissés de côté. Qui plus est, la Première ministre est dans une position extrêmement difficile puisque non seulement elle faisait partie des deux gouvernements qui ont appliqué à marche forcée cette austérité budgétaire, mais en tant que ministre de l'Intérieur, par exemple, c'est elle qui a initié, entre 2010 et 2016, des coupes claires au sein de la police. La pression est telle actuellement que, sans le dire explicitement, différents membres du gouvernement et notamment le ministre des Finances ont signalé la fin prochaine de l'austérité et promis d'injecter des fonds auprès des différents ministères, mais à une condition, que les députés britanniques votent demain mardi en faveur de l'accord de divorce négocié entre Londres et Bruxelles. Un chantage qui, vous vous en doutiez, très mal passé auprès des élus britanniques, très conscients de l'urgence de remettre à flot les services publics du pays, mais qui refusent qu'on leur dicte leur conduite.
Merci à vous, Muriel Delcroix. En direct de Londres, on aura parlé de l'actualité internationale et de comment on vit ces services publics ailleurs. Monsieur le député André Chassaigne, on voit bien que le phénomène d'érosion des services, il est général, il est européen en quelque sorte.
Les propos que je viens d'écouter, c'est quasiment une parabole biblique. Et si j'en faisais l'exégèse, c'est de voir où conduisent les politiques d'austérité, la réduction des dépenses publiques, l'abandon depuis Thatcher des services publics au Royaume-Uni, au point qu'aujourd'hui, c'est une situation catastrophique et qu'il y a même une volonté de revenir en arrière,
de nationalisation,
notamment pour le chemin de fer.
Ouais. Merci André Chassaigne d'être venu ce matin. Merci d'être venu sur votre territoire, où vous êtes chaque week-end, évidemment, et pas seulement pour venir écouter les administrés. Il est 7h46 à Paris. On parle de l'affaiblissement, voire de la disparition des services publics dans les zones rurales. Et ce phénomène, il s'accompagne souvent de la mort des commerces, puisque quand un service public s'en va, les salaires des fonctionnaires, ils s'en vont aussi. Et les commerces locaux, ils en font les frais. Les petits ferment à 8 km d'ici. Nous sommes à Marsac, en Livradois. Il y a encore un boucher charcutier. Mais pour combien de temps encore? Didier Jallet a du mal, beaucoup de mal, à rester optimiste.
C'est terrible. Quand dans une journée, vous rentrez le soir, qu'il y a 60 euros dans votre caisse, comment vous faites pour payer les charges, quoi? Moi, j'ai quand même investi l'achat plus 50 000 euros de travaux. Tout le monde était content, mais les gens ne viennent pas, en commençant par les Marsacois. Il y en a qui viennent, mais toujours les mêmes personnes. Il y a des gens qui passent, qui n'ont jamais venu ici acheter une tranche de jambon. Donc ces gens-là, on peut fermer, je pense qu'ils s'en fichent complètement, puisqu'ils ne vont pas dans les commerces. Mais ça serait dommage qu'un village comme Marsac, qui pour moi est dynamique, un jour va mourir, quoi. Moi, je suis encore solidaire avec le village, mais les gens ne sont pas solidaires avec moi. Donc voilà, après je sais plus quoi faire. Quand je vois le nombre de gens qui vont le matin emmener les enfants à l'école et qui vont les rechercher le soir, ils pourraient faire un petit effort. Un village, il n'y a plus de commerce, mais il n'y a plus de village. Allô? Allô? Allô?
Oui, bonjour l'amoureux. Un morceau de tripe? Pas beaucoup, d'accord. Une tranche de jambon blanc et un petit morceau de boudin noir. Et bien entendu. Allez, bon week-end.
Merci, au revoir.
Voilà le genre de client fidèle.
Les clients fidèles de Didier Jallet, qui est boucher charcutier à Marsac en Livradois. On lui passe le bonjour, évidemment, ce matin. Bonjour à vous, Gérard Gondol.
Bonjour.
Vous êtes l'un des boulangers pâtissiers à Ambert et le président de l'Union des commerçants et artisans du pays d'Ambert. Ce qu'on vient d'entendre, ça fait écho à ce que vous vivez ici.
Alors oui, oui et non.
Il y a un tissu commercial plus développé ici. On est dans une plus grande ville, plus grand bourg, faut le dire.
Oui, tout à fait. Mais après, il ne faut pas non plus voir du pessimisme partout. Et moi, j'ai plutôt envie de mettre un petit peu de réjouissance.
Eh bien, volontiers.
Dans cette aujourd'hui, parce que bien sûr que le commerce est difficile. Il est difficile par la désertification, bien sûr. Il est difficile parce que on a de la concurrence en face, que ce soit des mètres carrés de grande distribution qui sont sans arrêt en augmentation. Et le Puy-de-Dôme est un département en France leader au niveau de mètres carrés par nombre d'habitants, ça c'est un peu malheureux. C'est aussi Internet qui, bien sûr, aujourd'hui prend le pas sur beaucoup de choses. Car
on achète par Internet,
bien sûr,
donc on va plus chez le commerçant.
Oui, ça je crois que, je ne sais pas, je pense que, je n'ai pas les chiffres en tête, mais bientôt on arrivera à 50-50. Donc obligatoirement, on a des enseignes qui sont sur place et qui sont de trop. Il y a pas,
qui ne servent plus à rien. Alors, va sur Amazon, c'est ça?
Amazon et tout le reste.
Et tous les autres.
Voilà. Alors après, il y a encore des choses à faire. Moi, j'y crois énormément. La preuve, moi, je viens d'investir 600 000 euros en Amber. faire, c'est pas pour m'amuser, hein, c'est parce que j'y crois. Les clients me le rendent puisque je suis en progression depuis 6 mois et une grosse progression constante. Donc je crois que le commerce aussi, il faut qu'il se réinvente, il faut qu'il se remette aussi en question. Et alors, c'est peut-être facile pour moi de le dire parce que je suis aussi dans une des professions qui peuvent peut-être pas être facilement achetés sur le devant d'un clavier. L'alimentaire
on achète rarement sa baguette.
Voilà, on a encore de la chance, mais j'ai envie de dire qu'il faut vraiment que le commerçant se sente impliqué dans son commerce.
Oui.
Et
ce que disait notre camarade Boucher à l'instant, vous sentez soutenu, vous, par les habitants d'Ambert en général, vos clients,
je crois
vous
qu'on
dites,
a...
oh là là, mais il est allé chercher son pain là,
au bien sûr qu'il y en a, mais bien sûr qu'il y en a, on va pas se le nier, bien sûr qu'il y en a.
Parce que c'est
mais
plus après, pratique aussi, peut-être.
Après, je crois qu'il faut pas stigmatiser le consommateur, parce que si on stigmatise, on est sûr de le perdre.
Bah, oui.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rester absolument positif. Et encore une fois, moi je suis passé j'ai délocalisé mon entreprise, je suis passé en gros de 120 clients jour, aujourd'hui je suis à 300 clients jour. Donc ça veut bien dire
donc
que
vous
le client
nous racontez une
il
expansion.
Attend quelque chose, ouais. Le client attend. Ouais. Mais si on lui demande, il ne va jamais vous dire ce qu'il attend, c'est à nous de lui proposer. Ouais. Alors, encore une fois, c'est peut-être plus facile pour moi que pour certaines entreprises, mais il ne faut pas attendre d'être au fond du trou pour le faire. Alors c'est sûr que l'habillement et compagnie, c'est très compliqué pour eux. Je crois qu'ils ont passé une phase où le consommateur venait chez eux essayer, rentrer chez lui tranquillement et acheter sur Internet parce qu'il avait vu la même chose. Je crois que cette phase est en train un peu de s'estomper. Parce que les géants de la distribution par Internet, ils vous vendent, vous faites un retour gratuit, etc. Donc toute cette facilité, vous achetez à 10h du soir, à 11h, à 6h du matin, vous achetez quand vous voulez. Aujourd'hui, le monde de la consommation a complètement changé. Et le commerçant est obligé de s'évoluer. Il est obligé d'évoluer. S'il n'évolue pas, il est mort. Ça, c'est clair.
Je ne veux pas faire dans le pessimisme, hein, on n'est pas là pour ça. Mais il y a une spirale de fermeture quand même dans les centres-villes, comme dans cette commune d'Ambert, mais qu'on prend comme exemple parce que nous sommes ici. Mais c'est une réalité qui se reproduit tellement de fois sur le territoire.
Ce qui est dommage, c'est qu'on a vu cette spirale qui avait été inversée il y a quelques années de ça. Moi, je me souviens de la rue de la République qui était vide. Moi, je suis arrivé en 92 à Ambert, où c'est qu'il devait rester un ou deux commerces. On avait réussi, et c'était la municipalité de l'époque, qui avait racheté des bâtiments, qui avaient fait les travaux et qui avaient libéré ces espaces pour des commerçants. Et la rue de la République était de nouveau devenue vivante et quasiment toute tout le côté gauche en montant était ouvert. Et puis il y a eu une érosion. Pourquoi ? Parce que un ou deux commerçants mauvais, il faut dire la vérité, qui ont repris des commerces. Mais le commerce, c'est pas 35 heures. Hein. Le commerce, c'est pas des horaires de bureau. Je veux dire, il n'y a pas à tordre, quoi. Donc il faut absolument être... Et puis, si on veut que les centres-villes tiennent, il faut absolument que ce soit du commerce, des métiers de bouche. Vous pouvez regarder toutes les villes, et même des villes beaucoup plus grandes que celles d'Ambert. Vous prenez Place de Jaude à Clermont-Ferrand, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Il reste de la banque.
Bouche.
De la banque.
Oui. Oui.
Il reste de la banque, du service, point. Alors, c'est Jaude, c'est Clermont, on est d'accord. Donc il y a du monde. Mais en attendant, tous ces commerces de bouche, des métiers de bouche qui disparaissent, c'est un flux de personnes qui viennent tous les jours. Et obligatoirement, ce flux, on l'a plus. Donc, problème.
Et on parlait des services publics. Les services publics qui partent, vous sentez la conséquence ?
Ah ben bien sûr. De toute façon, n'importe quel service qui ferme, que ce soit public dans une ville, c'est des gens qui ne viennent pas à la poste, qui ne viennent pas à la maternité, on en parlait tout à l'heure, qui ne viennent pas aux impôts, etc., etc. Moi, je prendrais mon exemple. Nous, aujourd'hui, on a un souci sur la TVA. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une journée, on descend à Clermont. Et il faut encore qu'on ait la chance d'avoir un rendez-vous. Parce que si on s'y pointe comme ça, on remonte sans réponse. C'est pas normal.
Et avant, vous pouviez faire cette démarche ici ?
Mais bien sûr. Et c'était quoi ? Un quart d'heure ? La personne qui était derrière le guichet, elle avait notre dossier, elle le connaissait
par cœur.
Votre dossier,
vous connaissez personnellement, elle achète le pain chez vous, elle vous connaît et elle sait ce qu'il faut faire.
Le problème était réglé tout de suite.
Le poste a été supprimé.
André Chassaigne.
Le poste, en fait, a été supprimé. Il y a des suppressions de postes au sein des impôts qui font qu'on éloigne, on éloigne de, notamment des professionnels, des chefs d'entreprise, des questions qui pourraient se régler sur place.
On va revenir sur toutes les questions de commerce parce que ça ouvre beaucoup de choses et puis ça parle à tout le monde. Hein. On va tous acheter notre baguette à un moment. On a tous besoin de manger et on se tourne tous vers les commerçants. Je voudrais qu'on entende la voix de Stéphane Ménager qui est avec nous, délégué de parents d'élèves à Marsac-en-Livradois. C'est à quelques kilomètres d'ici. Vous êtes aussi militant syndical au sein de votre entreprise. Et vous vous battez aujourd'hui pour empêcher la fermeture d'une classe dans votre village.
Voilà, nous on se bat pour la fermeture d'une classe dans notre village. Nous, à Marsac-en-Livradois et à Jobe, pareil, ils perdent une classe, mais je voulais aussi revenir...
Rapprochez-vous un petit peu du micro.
Je voulais revenir un instant sur mon emploi de militant au sein de Sanofi, et je voulais remercier en tête-à-tête Andrés Chassaigne, parce qu'il nous a bien défendu il y a 2 ans, puisque le site de Vertot devait être cédé, et du coup, je pense, grâce à votre intervention, on est resté dans le groupe
Sanofi. Grâce à la mobilisation.
À la mobilisation.
Oui, parce qu'on parle des services publics, mais aussi les sites industriels.
Il faut aussi conserver l'emploi privé sur le bassin d'Ambert, et je crois que c'est très important. Et ça, André, vous l'avez bien compris, vous nous avez bien défendu, et ça, je vous en remercie.
Le remerciement est passé, c'est très bien. Stéphane Ménager, pour ce qui est de votre casquette, je vais dire, de délégué de parents d'élèves.
Délégué de parents d'élèves, donc
pourquoi vous ferme-t-on une classe à Marsac-en-Livradois?
Eh bien, parce que nos effectifs sont en diminution.
Parce qu'il y a moins d'enfants.
Voilà, il y a moins d'enfants. La population diminue. La démographie diminue aussi. Et voilà, donc le...
Mais ça, si j'étais méchant, ou si je me faisais l'avocat du diable, c'est logique. Il y a moins d'enfants, on ferme une classe.
Voilà, on ferme une classe, forcément.
Ça fait des classes à combien?
Voilà,
l'horizon
donc
de la rentrée prochaine.
Selon les niveaux, on arriverait peut-être à des classes de 30 élèves, vous voyez. Donc bon, ça dépend des niveaux, entre 25 et 30 élèves. Donc aujourd'hui, on est aux alentours des 20 élèves. Demain, si on est beaucoup plus nombreux par classe, forcément, l'enseignement, il sera de moins bonne qualité. Ça, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ça.
Et vous pointez une espèce d'injustice avec ce qu'a pu faire l'éducation nationale, dédoubler les classes dans les quartiers difficiles. Mais là, on parle des villes. Et vous, vous êtes zone rurale et...
Voilà, donc alors on comprend bien le malaise qu'il y a dans les...
Oui, il n'est pas question de faire quartiers. Une concurrence de misère et de problèmes.
Hein, voilà, et exactement. Donc qui dédouble dans les zones sensibles, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est ensuite, il ne faut pas qu'ils viennent prendre nos instituteurs dans les zones rurales pour aller les mettre en zone prioritaire. Nous aussi, on a des cas difficiles. Nous aussi, on a des enfants qui peut-être ne parlent pas bien français. Hein, ça, voilà. Donc il nous faut aussi un enseignement.
D'éducation, qui ont besoin du service public de l'éducation. Vous avez obtenu quelque chose, Stéphane Ménager, depuis que vous vous battez autour de cette fermeture de classe.
Voilà, donc ça fait 2 mois qu'on se bat, et je remercie également tous les délégués de parents d'élèves, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait, et c'est énorme, notamment pour être ici ce matin sur votre plateau. Donc, on a eu un rendez-vous avec le DAZEN, donc le directeur de l'inspection d'académique, donc qui nous a plus ou moins fait comprendre qu'il fallait qu'on lui fasse confiance. Donc, en termes académiques, Michel Sauvade, qui connaît bien
le jargon,
voilà, il nous dit que voilà, on peut lui faire confiance. Voilà, donc chiffre à l'appui, peut-être qu'on arriverait à conserver.
Il faut qu'il y ait de nouveaux élèves.
Il faut qu'il y ait de nouveaux élèves.
Il faut que la démographie remonte. Alors il faut que les gens viennent des autres villages. C'est une concurrence entre villages.
Voilà, c'est une concurrence, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus aller enlever les enfants de Grand Rif ou de Vertolaille ou de Saint-Anthème pour augmenter les effectifs.
Et ces fermetures de classes, les écoles qui ferment des classes, ça c'est aussi un problème pour le commerçant que vous êtes, Gérard Gondol, par ricochet,
oui,
évidemment.
Je pense que de toute façon tout est lié.
Tout se tient.
De toute façon, une économie, c'est pas une économie dans un seul sens. C'est une c'est une multi-économie qui s'imbrique les uns dans les autres. Et tout le monde en fait les frais à un moment donné, de toute façon.
Et on l'a bien compris en discutant avec vous ce matin. Merci à tous les trois d'être venus chez vous, puisque c'est vous qui nous accueillez, en fait. Nous sommes toujours à Ambert, sur RFI. Et c'est jusqu'à 9h, cette journée spéciale consacrée aux services publics. On va continuer de vous parler de ruralité, des services publics qui s'en vont, mais aussi, et on a commencé à le faire, les solutions. Qu'est-ce qu'on invente pour demain ? Nos invités pour les prochaines minutes, Michel Sauvade, maire de Marsac-en-Livradois, à quelques kilomètres d'ici. Vous êtes aussi conseiller départemental et membre du comité directeur et référent téléphonie mobile pour l'Association des maires de France. Et vous êtes venu ce matin avec toutes vos casquettes. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous. Tout d'abord, un salut très amical à Déborah Lepage et à Bruno Faure, qui ne peuvent pas être ambertois ou marsacois aujourd'hui. Je tiens vraiment à saluer le professionnalisme avec lequel ils sont venus découvrir ce territoire. Ce sont quasiment des habitants de Marsac-en-Livradois.
Voilà, alors, Bruno Faure, nos auditeurs le connaissent bien. Il signe le grand reportage et c'est lui qui nous a amenés ici jusqu'à Ambert. Le signe le grand reportage du jour. Et Déborah Lepage, puisque vous êtes maintenant dans la coulisse à RFI, c'est la demoiselle avec qui vous avez eu des contacts. Nos invités ont eu des contacts toutes ces dernières semaines. Et parmi nos invités dans les minutes qui viennent, il y a aussi Sacha Leduc. Bonjour à vous. Vous êtes sociologue, maître de conférences en sociologie à l'université Clermont-Auvergne. Merci à tous d'être toujours avec nous. Je signale que nos invités de la première heure ne nous ont pas quittés. Ils sont à nos côtés, ils nous écoutent.
Aujourd'hui, on veut vite faire ses courses pour vite rentrer. Alors qu'autrefois, aller faire le marché, c'était quelque chose de très important. Il n'y avait pas que l'idée de faire les courses, il y avait aussi l'idée de rencontrer, de partager et d'échanger. Donc on a rendu nos abords de ville moins humains, mais plus pratiques. J'aimerais tellement qu'on puisse revivre des centres-villes dynamiques où les gens sont fiers de se croiser, de se parler, d'échanger. Et puis ça redonne une vie à une société et ça donne de l'humain à une ville. Ça, c'est important pour moi.
Un témoignage recueilli par Alexis Bédu, l'un de nos reporters dans l'Indre. C'est loin d'ici, mais on voit bien que les problématiques, que les questions, ben, elles se rejoignent où que l'on soit. Michel Sauvade, vous êtes donc le maire d'une commune de 1500 habitants. Comment on retisse ce lien social aujourd'hui dans les toutes petites communes ?
Il n'a jamais véritablement disparu, ce lien social. Il est resté ici probablement plus qu'ailleurs, je l'imagine. Et quant à le relancer ou le redynamiser aujourd'hui, ben c'est vraiment l'affaire de tous. Les élus ne sont simplement là pour donner envie ou donner les moyens pour arriver à avancer. Je vous donne un exemple sur Marsac. Vendredi, concert rock en hommage à Scorpion.
Concert rock en hommage à Scorpion.
Voilà. 150 personnes, c'est-à-dire 10% des habitants de
un
la commune.
Un habitant sur 10 est venu.
Mais en réalité, bien plus que des habitants de Marsac, y compris ceux qu'on n'imaginait pas. Et surtout, ce qui nous a fait très plaisir, beaucoup de jeunes qui ont découvert quelque chose que nous connaissions bien parce que ça nous ramenait dans nos jeunes années, mais qu'ils ont pris plaisir à apprécier. Et puis, le lendemain... une des associations de la commune, il y en a une vingtaine qui s'appelle Oxygène, avait organisé le carnaval avec des dizaines d'enfants défilant devant l'école dont Stéphane Ménager nous parlait tout à l'heure avec tellement d'enthousiasme.
Donc il se passe des choses.
Mais bien sûr.
Ça n'est pas mort, c'est ça qu'on veut dire aussi ce matin, Michel Sauvade.
Non seulement on bouge encore, mais on imagine sans doute peut-être plus qu'ailleurs parce que la distance et l'éloignement nous donnent encore plus envie. Ici, on est heureux de vous accueillir, on est heureux de découvrir un monde...
Et on est heureux d'être là.
qu'on ne maîtrisait pas forcément, mais on profite des richesses du quotidien. Dans l'Indre, on parlait de la gestion du temps. Moi, j'ai grandi en ville, mais je suis ici maintenant depuis une trentaine d'années. J'ai renoncé à avoir une montre sur moi. Le rythme de vie ici... Tout à fait. Le rythme ici n'est pas le même. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas bien en ville ou qu'il n'y a pas du sens à avoir...
Mais alors, on y vit... Comment dire ? On y vit bien, on y vit mieux qu'en ville ? On y vit différemment ?
On y vit différemment et surtout, il faut sortir du discours qui oppose les uns et les autres. Aujourd'hui, je suis en Bertois, tout à l'heure j'étais marsacois, dans deux jours je serai parisien. Mais c'est ça qui fait la richesse de la vie et c'est surtout l'échange entre les uns et les autres qui a de l'importance. Aujourd'hui, me semble-t-il, il y a une rupture qui s'est établie entre ce qu'on appellerait la centrale. Je ne remettrai pas en cause l'État, mais un certain nombre de gens enfermés dans des ministères qui aujourd'hui, on le voit bien, n'entendent pas les habitants du pays, mais n'entendent pas non plus les serviteurs de l'État. Patricia Valma, la sous-préfète d'Amberge.
Qu'on entendait tout à l'heure.
Absolument. Et qui est quelqu'un qui s'engage de façon magnifique pour le territoire. C'est quelqu'un dont je ne suis pas persuadé que malgré les alertes qu'elle remonte et malgré les suggestions qu'elle transmet, soit écoutée de façon pertinente et entendue.
On parle de ces services publics qui s'étiolent, Sacha Leduc. Pourquoi donc ferme-t-on des services publics en France ? On a compris qu'il y avait une question de rentabilité, en quelque sorte.
Alors, de toute façon, quand on fait le bilan de quelque chose ou pour essayer de répondre à une question, il faut toujours se poser cette question ou cette interrogation de savoir pourquoi les réformes ont été faites.
Pourquoi on fait ça ?
Voilà. Alors, il me semble que dans tout ce qui s'est dit depuis le début de l'émission, on a quand même quelques éléments de réponse, quoi. Donc, la première, c'est que depuis maintenant un certain nombre d'années, l'État fait face à un défi gestionnaire. Qui est comment faire dans un contexte de réduction de moyens et d'augmentation des demandes.
Il n'y a plus de sous, c'est ça.
Alors, il n'y a plus de sous, mais en même temps, c'est une conception en matière d'État qui a changé. C'est-à-dire, si je caricature un peu à dessin pédagogique, je ne vais pas rentrer dans des choses trop compliquées de bon matin. Mais globalement, pendant longtemps, on a considéré que les dépenses publiques pouvaient être des outils à la croissance. Et c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire à un niveau très microéconomique. Quand le commerçant ici présent expliquait que plus il y avait de services publics d'une certaine façon, plus il y avait de consommation et donc plus localement, l'économie se tenait.
Un effet boule de neige, exactement. Forcément, tout se tient.
Exactement. Sauf que, disons que depuis le début des années 90, on est plutôt aujourd'hui dans une conception où on considère que les dépenses publiques, notamment les dépenses sociales, sont des obstacles à la croissance. On a eu un changement de paradigme.
Exactement.
Du coup, face à cette question ou à ce nouveau défi, il y a eu trois solutions qui ont été engagées, qui ne sont pas des solutions nouvelles. La première solution qui a été une solution, on va dire, d'ordre budgétaire, avec la LOLF, donc la loi organique relative aux lois de finances. Pour le dire très simplement, oui. On arrête de fonctionner sur une logique de moyens, mais on va fonctionner sur une logique de résultats, ce qui a profondément changé les services publics. Ça a été une solution. Une deuxième solution qui ont été des solutions, on va dire, organisationnelles, avec notamment ce qu'on a appelé la New Public Management, c'est-à-dire l'introduction de nouvelles formes de gestion des ressources humaines des fonctionnaires, la RGPP, parmi donc la réforme générale des politiques publiques, avec à l'intérieur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, et puis la solution technique. Cette solution technique a consisté à tout ce qui a été appelé l'e-administration, etc., c'est-à-dire en gros la dématérialisation des services publics. Oui. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a suffisamment de recul aujourd'hui pour voir si ça fonctionne et quel est le bilan qu'on peut en tirer. Et je terminerai là-dessus. Le bilan qu'on peut en tirer se fait toujours au regard des raisons pour lesquelles on a fait les réformes. La question, c'est est-ce qu'on a fait ces réformes pour maîtriser les dépenses publiques ? Et auquel cas, là, le bilan, il peut être plutôt positif. Par contre, est-ce que ça a été pour améliorer la qualité, la proximité, l'efficacité des services publics? Là, on est forcé d'être un petit peu plus nuancé.
Et la réponse est non.
Il faut être un peu plus nuancé. Oui. C'est-à-dire que sur certains aspects, il y a eu des améliorations, notamment sur la dématérialisation des services publics. C'est-à-dire qu'il y a une immédiateté des services aujourd'hui quand tout fonctionne.
Oui. Quand tout fonctionne, d'un clic, ça se règle.
Exactement.
On verra tout à l'heure que ça fonctionne pas forcément toujours d'un clic. Michel Sauvade, ces services publics qui s'éloignent, vous en avez eu une illustration, on va le dire, presque personnelle. Vous avez reçu une lettre où on vous parlait de proximité raisonnable.
Ah oui,
c'est-à-dire on va plus loin parce qu'on sera suffisamment près, mais un peu loin quand même.
Ah, on a un directeur des finances publiques dans le Puy-de-Dôme qui mériterait d'entrer à l'Académie française parce que cet homme-là nous a inventé le concept de proximité raisonnable. Donc il a écrit un courrier à l'ensemble des maires alors qu'il évacuait un certain nombre de services fiscaux de notre arrondissement et en nous expliquant que c'était pour notre bien. Donc il nous a démontré que en déplaçant à 40 km de distance de service, on allait avoir un service plus efficace et de meilleure qualité. Donc cet homme-là, l'État doit le décorer quelque part.
Vous allez lui ériger une statue à Marsac, j'en suis convaincu. Alors au-delà des manifestations du samedi, le mouvement des Gilets jaunes, on l'a surtout découvert sur les ronds-points des villes, des bourgs, des villages. Voici le témoignage de Sébastien sur un rond-point de la région. Il concentre, dans ce qu'il dit, beaucoup des frustrations et des difficultés.
Je m'appelle Sébastien, donc j'ai 32 ans, je vis dans une petite commune où il y a 600 habitants. On n'a aucun transport, où les jeunes aujourd'hui sont obligés de se délocaliser dans les milieux urbains pour pouvoir faire des études. C'est une sensation d'inexistence. On est là dans nos petites communes où on a 600 habitants, on a du CE1 jusqu'au CM2. Ils ont 30 élèves et ils sont tous dans la même classe. Quand je vois comment ça se passe, c'est vraiment triste ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. La société étouffe tout à fait les gens ici. Il faudrait que tout le monde aille en ville pour pouvoir mieux vivre. Hein, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire.
C'est pour ça que vous êtes engagé avec les Gilets jaunes ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pas pour mes problèmes personnels. Voilà.
On veut nous pousser dans les villes, tous, Sébastien, on n'a pas de transport, une sensation d'inexistence. C'est très lourd ce que vous entendez au quotidien, Michel Sauvade.
Oui, et quelque part, le catalyseur de ces phénomènes-là, si on les regarde de près, sont liés à l'attaque qui a été faite à destination de l'automobile, du véhicule individuel.
Oui, bien sûr.
Et ici, c'est quelque chose qui est un facteur de liberté déterminant. On parle d'enclavement géographique.
Oui, de liberté, c'est une nécessité absolue. Quand vous n'avez plus de gare ferroviaire qui fonctionne et s'il y a un transport qui passe toutes les trois heures, Comment vous faites ?
Absolument. Quand je monte régulièrement sur Paris en voiture, je peux vous dire que pendant une heure et demie de trajet pour rejoindre le train à la gare de Vichy, à 80 km/h, j'ai des pensées très chaleureuses vis-à-vis de ceux qui ont décidé de réduire la vitesse à 80 km/h. Parce que concrètement, ça paraît futile, mais c'est un quart d'heure de trajet en plus.
Donc des pensées très chaleureuses pour eux,
c'est ce que vous venez de dire. Ah, tout à fait, dans ces cas-là. Mais quelque part, il devient insupportable, et pas seulement pour les élus, mais c'est pour l'ensemble des habitants ici, en France, qu'on leur explique ce qui est bon pour eux. Nos anciens nous ont laissé un beau pays, quelque part. Ils n'étaient pas complètement idiots, ils n'ont pas pollué les rivières, ils n'ont pas détruit le paysage. Et donc, on a matière à en être fier et à considérer qu'on n'a pas de leçons à recevoir d'ailleurs.
Sacha Leduc, on entend la sensation d'inexistence qu'on disait à l'instant. Il y a dans ces campagnes, dans ces territoires ruraux, une pauvreté qu'on dit silencieuse.
Oui. Alors, il faut. C'est vrai que quand on fait de la sociologie, on aime bien contextualiser un peu pour éviter de réduire la complexité de la réalité sociale. Le, il n'y a pas un monde rural. Il y a des mondes ruraux. Il y a des campagnes qui bénéficient de dynamiques extrêmement positives, qu'il conviendrait d'ailleurs éventuellement dans la discussion d'évoquer, c'est-à-dire quels sont les ressorts en fait du dynamisme local. Et puis il y a des territoires où effectivement il y a des formes de peut-être de relégation sociale avec une surreprésentation. De gens issus des classes populaires, du monde ouvrier rural qui a été aussi touché par la désindustrialisation. Et donc sur ces territoires-là, évidemment, là où il y a besoin de plus d'État, ce phénomène de modernisation des services publics qui touche l'ensemble de la société a des conséquences beaucoup plus graves.
C'est pris de plein fouet.
Mais évidemment, évidemment.
Et être pauvre, enfin si on résume, hein, c'est pas très beau de le dire comme ça, mais cette pauvreté des campagnes, elle est banale, elle se tait.
Alors, elle se tait des gens qui ne la connaissent pas. C'est-à-dire que les gens.
Elle est très différente de celle des villes.
Alors, je sais pas. Déjà, quand on parle de pauvreté, enfin, je suis un peu désolé de faire le sociologue, mais il faudrait définir.
Vous êtes là pour ça.
Ouais, il faudrait définir les termes. C'est-à-dire que quand on parle de pauvreté, on parle de pauvreté relative. Hein, on parle de. Il y a un sens économétrique. C'est toutes les personnes qui vivent avec 60%, enfin, avec des revenus inférieurs à 60% du revenu médian.
Ouais.
Ceci étant, entre 1000 euros et toucher le RSA, on vit pas tout à fait les mêmes difficultés. Donc ça demande de contextualiser. Après, sur la pauvreté rurale, c'est vrai que peut-être, je ne sais pas si elle est différente fondamentalement des villes. Ce qui est certain, c'est qu'elle est peu connue et elle est peu rendue visible. À la fois dans les médias, sans doute aussi par les sciences sociales, mais on essaye d'y travailler. Sa caractéristique, elle est, je crois, le fait de la petitesse du statut social. Le fait de la petitesse aussi des revenus économiques et l'éloignement de la culture dite légitime, notamment des classes supérieures. Voilà. Moi, je définirais les choses comme ça. C'était en gros la définition d'Olivier Schwartz sur la notion de classe populaire.
Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, évidemment. Cette édition spéciale se poursuit. On marque une micro-pause, même pas, puisqu'il est bientôt 8h30. RFI, il est 8h30 à Amber, 7h30 en temps universel. Nous sommes toujours en direct d'Amber, dans le Puy-de-Dôme. Journée spéciale autour des services publics, du mouvement des Gilets jaunes, du grand débat national plus largement. Et dans 40 minutes, juste après nous, vous retrouverez comme chaque jour Juan Gomez pour appel sur l'actualité sur RFI. C'est une heure de dialogue avec les auditeurs de Radio France Internationale. Juan, je vous fais de la retape ici parce qu'on ne vous entend pas en FM. Donc
vous faites bien.
Que certains vont avoir le goût de vous écouter sur Internet et sur leurs applications mobiles. Il n'y a pas de raison. Bonjour Juan.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Votre débat d'aujourd'hui autour des services publics en Afrique pour faire écho à ce dont nous parlons depuis ce matin.
Ah oui, et tenez-vous bien, pratiquement aucun pays africain ne réussit à fournir les services publics de base satisfaisants, alors que la demande pour des services de qualité ne cesse d'augmenter. Voilà ce qui ressort d'un rapport de la Fondation Mo Ibrahim qui évalue la gouvernance dans 54 pays du continent. Alors certes, d'un pays à l'autre, les réalités sont différentes, mais ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'une grande majorité des citoyens africains est prête à payer pour des services publics de qualité. Alors vous qui nous écoutez à travers ce continent, appelez-nous ce matin, c'est l'occasion évidemment de témoigner. Dites-nous pour pourquoi les services publics ne sont-ils pas à la hauteur de vos attentes? Parlez-nous de l'accès à l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau potable, la justice. Comme en France, et comme le disent vos invités Arnaud Pontus, les disparités entre les villes et le monde rural sont une réalité également sur ce continent. Du coup, les conséquences, elles se constatent en termes de développement, de paix, de sécurité. Bref, vous nous rejoignez, appelez-nous 33 9 693 693 70. Vos réactions, vos témoignages nous arrivent également sur la page Facebook de l'émission. Pour vous donner un ordre d'idée rapidement, Arnaud, deux trois réactions sur Facebook. Un auditeur de Brazzaville qui nous dit que les coupures d'électricité sont quotidiennes au Congo. Cette situation doit cesser. La population en a assez, dit-il. Samuel nous écrit de Kara. Kara, c'est à 420 km de la capitale togolaise. Il se plaint des pénuries d'eau potable. L'augmentation du nombre d'habitants n'a pas été anticipée. Puis enfin, une note optimiste, celle d'Armand en Côte d'Ivoire, qui reconnaît que des efforts sont faits dans le secteur de la santé. Il nous parle d'une multiplication des centres de santé urbains à travers ce pays. Donc émission spéciale, service public en Afrique, dans 40 minutes maintenant, Arnaud Pontus.
Merci à vous, Juan Gomez. À tout à l'heure. La difficulté d'accès aux services publics, la vie chère, la disparition des petits commerces, tous ces thèmes qu'on aborde depuis ce matin, ils n'ont rien d'étranger. À vous qui nous écoutez de par le monde, je voudrais qu'on prenne maintenant la direction du continent africain, le Sénégal, Dakar. On rejoint notre correspondant permanent, Guillaume Thibault. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Au Sénégal, la population doit vivre avec des variations de prix et de salaires, et la préoccupation du pouvoir d'achat, comme partout ailleurs, elle est quotidienne.
Vivre au jour le jour, ne pas avoir de revenus fixes, pour les plus démunis, se nourrir, nourrir sa famille, c'est une lutte permanente et une peur pour les parents, une boule dans le ventre quand on ne trouve pas le billet de 500, 2000 ou de 2000 francs CFA qui soulagera le foyer. Le Sénégal sort tout juste de l'élection présidentielle et les électeurs ont souvent pointé le décalage entre leurs galères et les déclarations, les promesses, les objectifs des candidats. Pendant qu'ils pensent au pouvoir, nous, on se demande comment on va remplir le bol de demain, nous expliquait par exemple Toundé, un fabricant de chaussures. En ville, plus qu'en campagne, la tension est forte, la nourriture, les loyers, les déplacements, tout coûte plus cher et l'entraide, si elle reste bien présente, on partage facilement un plat ou un thé, disparaît aussi avec la modernité.
Guillaume, justement, cette vie quotidienne, elle est aussi en mutation avec l'arrivée massive des supermarchés au Sénégal.
Le phénomène s'est amplifié l'an dernier. Les grands groupes, en majorité français, s'implantent dans toutes les villes, malgré la grogne des commerçants, malgré la colère d'associations qui demandent le développement d'entreprises locales. Les reins solides, des politiques commerciales agressives, les méthodes de la grande distribution appliquées en France sont reprises ici. Les prix cassés, notamment durant les célébrations religieuses, ont marqué les clients qui ne se rendent pas forcément compte que les vendeurs au détail galèrent, que des petites boutiques mettent la clé sous la porte. À l'avenir, quel sera l'impact de ce développement sur le secteur informel, aujourd'hui essentiel pour donner du travail, pour nourrir donc une large part de la population du Sénégal.
Guillaume Thibault à Dakar pour RFI. On reste en Afrique un peu plus à l'est, le Burkina Faso, avec nous en ligne de Ouagadougou, Yaya Boudani. Bonjour Yaya.
Bonjour Arnaud.
Des manifestations, des mobilisations, des revendications autour du pouvoir d'achat, des impôts. Quel regard les Burkinabés portent-ils sur les événements qu'on a vécu ces dernières semaines et ces derniers mois en France?
C'est un combat légitime, un combat qui est parti d'une colère sociale, une remise en cause du mode de gouvernance. C'est une demi-insurrection populaire. Voici comment on pourrait résumer le regard des Burkinabés sur ce qu'il se passe en France. Cela résonne particulièrement au Burkina Faso qui a connu cette colère du bas peuple qui n'arrive pas à s'en sortir avec des maigres salaires et la baisse du pouvoir d'achat. En tout cas, la plupart des Burkinabés rencontrés sont solidaires des Gilets jaunes. C'est normal pour les Français d'exprimer leur ras-le-bol à une classe politique déconnectée des réalités, estime un journaliste et analyste. Ce que déplorent aussi bien les populations rencontrées dans la rue que les analystes, ce sont les casses de commerce et agressions contre les journalistes. Pour les Burkinabés, les Français, les Gilets jaunes peuvent manifester, revendiquer, mais il faut éviter que s'installe l'anarchie.
Et globalement, pour en poursuivre sur ce regard des Burkinabés sur les événements en France, ils constatent que la crise des Gilets jaunes n'a pas eu le même écho que des crises similaires qu'on a pu voir sur le continent africain.
Oui Arnaud, les Burkinabés s'étonnent de voir que les autorités françaises ne considèrent ces manifestations et revendications que comme un mouvement d'humeur passager. Un étudiant fait remarquer que si des événements similaires avaient lieu ailleurs, les dirigeants européens seraient intervenus, ils auraient même lancé des injonctions aux pays concernés. Alors pour la plupart des Burkinabés que nous avons rencontrés, c'est la réaction de la communauté internationale qui choque. Parce que c'est la France, il n'y a pas de condamnation des autorités françaises ou d'appel extérieur à mieux prendre en compte les revendications de la population, comme ce fut le cas lors des émeutes contre la vie chère en 2008 au Burkina Faso.
Merci à vous Yaya Boudanil, correspondant de RFI à Ouagadougou. On fait vivre tous les jours sur RFI l'actualité africaine et le regard de l'Afrique sur ce qui se passe dans le monde. C'est notre mission. Nous sommes de retour à Ambert, dans le centre de la France, avec nos invités pour les 20 minutes qui restent. Michel Sauvade, maire de Marsac en Livradois, conseiller départemental. Sacha Leduc, sociologue. Et retour en deuxième semaine de Myriam Fougère, maire LR d'Ambert, ici même conseillère régionale également. Je vous propose d'écouter une parole de Marsacois que vous connaissez bien, Michel Sauvane.
On est dans un secteur géographique, c'est un peu perdu quoi, pour la jeunesse. Donc après, les jeunes ne vont pas trop rester là non plus. Donc, tout le monde part plus ou moins sur Clermont, Saint-Etienne, ou dans les grandes villes faire leurs études, et ils ne reviennent pas. Quoi. Moi, je sais que j'irai jamais en ville, mais... Donc, bon.
Ah oui ?
Ah oui, c'est comme ça. Je m'y ferai pas. Ouais. Je pourrais pas partir d'ici, quoi.
J'irai jamais en ville, dit votre fils, on va le dire, Michel Sauvade. Il s'appelle Hugo, il est agriculteur. Cet attachement à cette terre, à ce territoire, c'est quelque chose de très important parce qu'on, si on est un peu bébête, on se dirait, les services publics s'en vont, allez-vous-en aussi, braves gens.
Oui, et c'est la tendance qui est véhiculée également par l'éducation nationale, quelque part, où on pousse systématiquement les enfants, même lorsque scolairement ils n'ont pas certaines facilités, on va les pousser à poursuivre des études. Un père est naturellement toujours très fier de ses enfants, c'est mon cas, mais je suis d'autant plus fier qu'à 14 ans, lorsqu'il a dit qu'il souhaitait partir en internat vers un lycée agricole à proximité et vivre en internat, c'était certainement plus difficile pour lui que de rester tranquillement au fond de la classe du collège ici avec ses copains. Et cette forme de courage-là, pour les élus que nous sommes, parce qu'on parle d'Hugo, mais on parle de dizaines de jeunes qui veulent s'installer.
C'est un exemple, oui.
Bien
sûr.
C'est un exemple. Il y a une volonté des jeunes de défendre ce territoire ici. Il y en a qui s'en vont et qui souhaitent revenir dans le domaine de la santé, dans le domaine des entreprises. C'est notre force et c'est ce qui motive les élus aussi.
Parce qu'on y vit bien ici malgré tout, Myriam Fougère.
Bien sûr, je crois que c'est important de donner aussi un message positif de notre territoire. Nous sommes attractifs, nous sommes accueillants, nous sommes dynamiques, nous sommes solidaires. Je crois que c'est toutes ces... Et nous sommes performants.
Et c'est ce qu'on entend depuis ce matin. Hein.
Exactement. Et nous sommes performants quand on entend aussi bien le commerçant que nous avons eu tout à l'heure, les élus. Je crois qu'il faut que l'on défende aussi que l'on communique sur ce territoire qui est une... Moi, je le dis très, 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 très facilement quand je suis à Lyon au Conseil régional, Ambert est une pépite. Et cette pépite, elle se développe et elle doit se développer. Je crois que c'est vraiment cette idée-là. C'est notre combat d'élus, c'est notre combat dans le milieu associatif, c'est notre combat dans le milieu industriel, puisque vous savez qu'en Ambert, nous avons un tissu industriel extrêmement important.
Alors, quelle solution ? C'est toute la question. Quelle solution quand les services publics s'éloignent, avec des agences qui ferment ? De plus en plus souvent, et on l'évoquait avec Sacha Leduc tout à l'heure, on parle de dématérialisation. Le gouvernement prévoit la dématérialisation de l'intégralité des démarches administratives à l'horizon de 2022. C'est-à-dire, vous allez faire votre petit papier, il n'y aura plus qu'à cliquer. Mais pour passer au tout numérique, encore faut-il avoir accès à un ordinateur, une connexion Internet qui est fiable, puis il faut parler la langue. Hein. C'est une langue particulière, l'informatique. On sait que les retraités, les non-diplômés, les personnes à faible revenu sont les plus concernées par ce qu'on appelle la fracture numérique. Quand par exemple, écoutez, obtenir les papiers pour vendre une voiture devient un casse-tête.
Bonjour, donc on vient vous voir parce qu'on doit faire une cession de véhicule pour laquelle on a créé un compte. sur Internet, etc. Et on n'arrive jamais à aller au bout du système pour pouvoir éditer nos documents. Voilà, tout simplement.
D'accord, bon, on va regarder ensemble. Ouais. On va se connecter sur votre compte AMTS.
Alors, le mot de passe, il est un petit peu compliqué. En minuscule ME, point d'interrogation, biaise, en majuscule Q.
Mais ça ne va pas fonctionner, ce sera plus simple si je prends le...
Il y a quelques années, ce papier, on le mettait sous enveloppe, il arrive à la préfecture, le lendemain, c'est fini. Il nous donne des numéros de code. Et...
Il y a passé 8 jours en y allant tous les jours. Samedi dernier, on y a passé chacun 2 heures. On n'a pas abouti.
Alors, on arrive dans ces régions où l'Internet, c'est une catastrophe.
Ouais.
On fait comment, les gens?
Ouais. On crée des choses qui ne fonctionnent pas, j'allais dire, simplement pour le commun des mortels, pour quelqu'un qui n'a pas fait Sciences Po, ENA, et puis quand bien même, quoi.
J'ai 72 ans, j'étais dans la santé. Tout ce que je pouvais faire, obtenir il y a 20 ans... C'est impossible maintenant, c'est impossible.
Voilà, témoignage de ce couple de jeunes retraités qui a du mal à obtenir les papiers pour vendre leur voiture. Sacha Leduc, regard du sociologue sur la dématérialisation, vous avez travaillé hein, ouais. sur ce sujet. Ça fonctionne ou pas ?
Franchement, ça pose beaucoup de problèmes. Voilà. Ça pose beaucoup de problèmes.
Parce que c'est présenté vraiment comme une ouais. solution.
Alors souvent, quand on... Exactement. C'est-à-dire que quand on présente ces solutions, souvent, on parle de qualité. Alors, il faut bien comprendre que quand on parle de qualité en général dans le monde économique, on ne parle pas de la qualité d'un pull qui dure. On prend des indicateurs et quand on parle des services publics et de qualité, très souvent, les gens nous répondent qu'à partir d'enquêtes de satisfaction... Parce que pour les gens, un service de qualité, c'est l'immédiateté, alors on va essayer d'aller vers une forme d'immédiateté permanente. La question qu'on doit toujours se poser, j'en reviens toujours à la même formulation, c'est-à-dire pourquoi on a dématérialisé les services publics ? Et je crois que fondamentalement, ça a été une façon d'assurer la nouvelle gestion des ressources humaines et la suppression d'une grande partie... alors la suppression, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est-à-dire la suppression de certaines activités qui étaient au cœur des services publics. On comprend rien à la généralisation de la micro-informatique dans les services publics et à ses conséquences si on n'a pas toute cette histoire en tête. Après, sur la dématérialisation de façon pure, il y a des conséquences graves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les guichets physiques, le guichet aujourd'hui est devenu un lieu de tension. C'est-à-dire qui se déplace physiquement aujourd'hui ?
Celui qui n'y arrive pas.
Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de réponse dans les canaux virtuels ou quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases, on va dire, informatiques. Ben oui. Donc du coup, il y a une tension, ça crée de l'agressivité, ça crée des formes d'impuissance. Les cartes grises, c'est une caricature. D'accord, c'est une catastrophe.
À ce point ?
Oui. Ah ouais. Alors, et puis il n'y a pas besoin...
Et vous faites tous oui, là.
Mais, bien sûr.
Je ne vous dénonce pas. Vous
mais la raison, encore une fois, c'est, il faut savoir pourquoi ça a été fait. Une des raisons pour lesquelles la dématérialisation des cartes grises a été effectuée, c'est à la fois pour des raisons, on va dire, économiques, mais c'est aussi pour diminuer massivement les relations commerciales, entre guillemets, entre particuliers. C'est rendre plus
difficile. C'est pour faire du bien aux concessionnaires, c'est ce que vous nous dites. C'est qu'on vend la voiture via le concessionnaire.
C'est une façon de relancer l'économie.
Il y a un petit coup de lobby derrière.
Bah, c'est une façon. On crée de l'argent d'une certaine façon. Si on passe par le, si on passe entre particuliers, les choses se font entre particuliers.
C'est autre chose.
Du coup, c'est vrai que sur la préfecture, franchement, c'est très difficile. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a essayé récemment de vendre ou d'acheter un véhicule. Il faut des codes, il faut une adresse mail, il faut attendre le code. Il faut aussi que dans la relation avec le particulier, il y ait suffisamment de confiance. Pour que la personne vous cède ses codes, vous rende les codes, etc. Et si jamais vous avez un problème, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans les codes, bah, ça devient très très compliqué. Beaucoup, ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui circulent sans carte grise. Quand le droit n'est pas stabilisé, l'informatique n'est pas une solution.
Michel voilà. Sauvane.
Oui, je voulais rebondir sur ce point. Le numérique, d'une manière générale, est le révélateur d'une situation de la société. Aujourd'hui, l'État a découvert le terme de plateforme. Et donc, on multiplie les plateformes sur Internet, il y en a partout. Mais en réalité, ici comme ailleurs, on n'a pas besoin de plateforme. Jeudi soir, il y a eu une coupure d'électrique qui a duré, dans certains secteurs, sur plusieurs heures. Comment est-ce que l'information a circulé entre les habitants ? Eh bien, elle a circulé par les réseaux sociaux. Les gens utilisent au quotidien ce qu'ils pratiquent eux-mêmes.
Oui, bien sûr, pour créer les liens et pour, pour se parler. On parle des services publics qui s'en vont. Parlons des solutions. Michel Sauvade, vous qui êtes maire de Marsac, vous avez fait construire ce qui n'est pas tout à fait une maison de santé, mais c'est un exemple intéressant. Vous avez imaginé en quelque sorte un service de santé différent.
Oui, c'est ce que l'on a appelé avec le sous-préfet d'alors un espace rural de service au public ou de service de proximité. L'idée, c'était d'impliquer directement ceux qui avaient vocation à aller dans ce bâtiment. On n'a pas construit un bâtiment vide en faisant ensuite la danse du ventre pour faire venir les médecins. On en aurait été incapable, ça ne marche pas. Et moi, la danse du ventre, c'est pas terrible.
Pas votre truc ? Non.
Pas vraiment. Et donc, du coup, on a attendu d'avoir un médecin qui était volontaire sur ce projet-là. Le médecin a participé au choix de l'architecte, à l'élaboration des plans, et ça a eu pour conséquence d'entraîner dans le projet des professionnels de santé habitant sur la commune, mais n'exerçant pas sur la commune, qui ont développé des cabinets secondaires, et d'un tout petit projet, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus ambitieux.
C'est-à-dire qu'en partant, on va le souligner, qu'en partant d'un médecin qui part à la retraite, donc d'une offre de santé sur votre commune, vous avez réussi à en faire plusieurs.
Alors, on est arrivé effectivement à avoir davantage de professionnels de santé qu'il n'en existait auparavant. Pourquoi ? Parce que ce sont les professionnels de santé de la commune eux-mêmes, et j'ai une pensée pour la pharmacienne de la commune, qui était la cheville ouvrière de véritablement de cette venue.
Qui a mis tout ça en mayonnaise.
Absolument. Ouais. Les élus ne détiennent pas la vérité. Encore une fois, un élu tout seul, il n'a jamais raison, il faut arriver à le comprendre. On ne réussit que si on se rassemble et si on accepte d'écouter des propositions qui ne sont pas a priori celles que nous-mêmes nous imaginerions.
Myriam Fougère, vous êtes maire d'Ambert, mais vous êtes aussi conseillère régionale, c'est-à-dire l'échelon politique au-dessus, bien au-dessus de tout ça. Que fait la région pour recréer ce lien social et pour pallier l'absence ou la disparition de services publics ?
Je crois que ce qui est important... Alors, au niveau de la région...
Ici, on est une très grande région, oui, Auvergne-Rhône-Alpes.
Auvergne-Rhône-Alpes, ah. c'est comme le Danemark, hein. C'est exactement la même... Ça s'est dit, on a presque 8 millions d'habitants.
8 millions d'habitants.
Voilà, exactement. Ce que la région a voulu et impulse depuis quelques années, depuis 2016, c'est un vrai travail de proximité avec les élus, avec les collectivités notamment, les communes. Et donc, travailler avec les communes pour les aider dans leurs projets, notamment des projets d'investissement, que ce soit une maison de santé, on parlait de...
Mais les aider, c'est quoi ? C'est apporter de l'argent ?
Apporter de l'argent, exactement. Apporter de l'argent, parce que c'est aussi le nerf de la guerre.
Région a des sous ?
La région a des sous, oui. La région a de l'argent, parce que la région a économisé en fonctionnement, et la région peut maintenant proposer de l'investissement. Je crois que c'est ça. C'est pas que ça, mais ça fait partie aussi de l'impulsion. Une des solutions, puisqu'on est en train de parler de solutions, c'est aussi de faire venir les décideurs sur le territoire. Je vais vous donner un exemple. Le directeur général de l'agence de santé régionale, l'agence régionale de santé, ouais, est venu sur ce territoire pour voir les problèmes.
Il est basé où techniquement ?
À Lyon.
Il n'est pas tout près.
Il n'est pas tout près. Ouais. Et notre volonté, notamment au sein de l'hôpital, le conseil de surveillance et donc tous les partenaires qui sont en lien avec l'hospitalier, Nous avons souhaité, et je souhaitais le faire venir sur ce territoire, pour qu'il voie déjà où nous nous situons, qu'il voie comment nous travaillons, quels sont nos équipements, et l'hôpital est un équipement qui est absolument essentiel, afin qu'ils se disent, mais écoutez, on va faire quelque chose. Et du coup, nous allons pouvoir bénéficier, enfin, j'allais dire, d'un scanner. C'est pas non plus la panacée, mais c'est quelque chose d'essentiel pour nous, pour assurer cette sécurité sanitaire de notre population. Nous aussi, on a les mêmes
droits. C'est déjà ça, un scanner, mais ça permet de faire le diagnostic, mais pas de soigner.
Tout à fait, on est bien d'accord. Mais au moins, ça évite aux personnes malades, et moi, j'en ai fait la triste expérience, de se déplacer, de faire 53 km dans un sens et 53 km dans l'autre pour pouvoir bénéficier de ce... Et c'est aussi attractif pour l'installation de médecins. On parle de déserts médicaux. On n'est pas encore désert médical, mais on va le devenir si nous ne faisons rien. Je crois que ça, c'est important.
Bon, Sylvie Aubert-Monnet, qu'on entendait dans la première partie, tic un peu, hein. C'est un peu difficile. Vous nous disiez hors antenne tout à l'heure que cette histoire de scanner, c'est bien, mais c'est peut-être un peu une gare de triage. On voit qui est malade. Et encore faut-il qu'il y ait de la place dans les grands établissements.
Mais c'est une demande.
Mais tout se tient, évidemment.
Ouais. Exactement. Je crois que c'est important.
Michel Sauvade, les solutions, vous le disiez, c'est nous qui les avons. après tout, enfin nous, pas vous les élus, mais vous les habitants, tout, hein, quel ça. Que soit votre statut.
Tous ensemble. On parlait des associations tout à l'heure et de la vie bien associative avec Valérie Prunier, l'autre conseillère départementale, donc en binôme sur ce canton. Nous sommes sur un canton de 30 communes avec 400 associations. Et je peux vous dire qu'en assistant aux assemblées générales, mais surtout en voyant les manifestations qui se font ici, c'est absolument extraordinaire. Un festival de musique internationale, une compétition cyclotouriste, des courses de vélo. Il y a une extraordinaire dynamique. Ici, on peut tout faire, y compris de la plongée sous-marine.
C'est vrai?
Bien sûr. Ah, je fais partie du club de plongée sous-marine.
À la Tempère. Piscine.
Bah, vous allez où? À la piscine. Bah, oui, forcément. Ça le dit.
Oui, juste peut-être pour quelques éléments de discussion, de réflexion sur là où ça marche et peut-être là où ça marche moins. Là où ça marche, très souvent, là où il y a des dynamiques locales fortes, c'est quand la mayonnaise se prend entre les gens qui sont là depuis longtemps et les nouveaux arrivants.
Oui. Ça, c'est ceux qui découvrent et qui se disent, mais dis donc, pourquoi il n'y a pas ça?
Ceux qui ont choisi de venir.
Mais qui se disent, mais pourquoi il n'y a pas ça? Mais pourquoi vous n'avez pas ça? Et qui se disent, ben, travaillons.
Et qui souvent sont très dynamiques et ont fait le choix du territoire.
Bien sûr.
Donc ça, c'est un élément important, ça ne se passe pas partout. Le deuxième élément, c'est... Michel Sauvade est très modeste, mais les élus, par leur choix politique, jouent un rôle extrêmement fort, notamment pour initier, fédérer des projets collectifs forts. Faire le choix politiquement, je vais prendre juste un exemple, d'installer un maraîcher bio sur sa commune, sur des terres communales, plutôt que de vendre sa terre à un supermarché ou un promoteur immobilier, parce que à long terme, il sait que la dynamique locale va créer du collectif, que les gens vont se fédérer autour d'un projet, ça change tout l'attractivité d'un territoire.
Au coup d'après, oui.
Exactement, mais c'est pas forcément facile. C'est des choix qui sont courageux. C'est des choix qui demandent d'une certaine façon de s'affranchir aussi du regard de certains de ces administrés, parce que tous les administrés vont pas être contents
de voir
qu'il y a des millions qui rentrent pas dans la caisse. Donc, et dernière chose, ça a été dit tout à l'heure, je crois que la question de l'école est fondamentale, et notamment la question des formations de l'enseignement supérieur entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après des filières scolaires, du secondaire, voilà. Ça, c'est des éléments qui, quand il y a tous ces ingrédients-là, bah, ça fait que ça prend, quoi.
Alors, restons optimistes. Il y en a qui restent optimistes en comparant la situation française à la situation ailleurs, ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire sur Radio France Internationale. Écoutez, cette retraitée, elle s'exprimait ici à Amberg, il y a quelques semaines, c'était lors du grand débat.
Alors, je vais essayer de donner une petite note d'optimisme. Je vais vous citer une réflexion d'un élève colombien que j'ai entendu à la radio il n'y a pas très longtemps. Il a dit « La France, pour moi, c'est le paradis, mais les Français se croient en enfer. » Et je pense qu'il a quand même un tout petit peu raison. Franchement, j'ai une amie qui travaillait à la Poste, en campagne. Elle passait quand même des après-midi entières à ne voir personne. Alors, réfléchissons. Si on veut des services, il faut s'en servir. On ne peut pas dire... les commerces disparaissent, mais on n'y va pas. J'entends aussi des gens qui disent bah oui, il y a des riches, il y a Amazon, il y a Google, il y a Facebook. Ne nous en servons pas et ils ne gagneront plus d'argent. On a des libertés, je suis contente d'être ici. Je suis allée voir ailleurs, c'est pas toujours terrible. Il y a des gens quand même dans d'autres pays qui ont d'autres problèmes que nous. Ils se prennent en main, prenons-nous en main. Il y a sûrement des choses à changer, il y a des choses qui ne vont pas. Mais un peu d'optimisme et prenons-nous en main.
Prenons-nous en main, c'est ce qu'on s'est dit ces dernières minutes tous ensemble. Et Sacha Leduc parlait à l'instant des choix politiques. Il y a les choix du citoyen, comment j'achète, comment je vis, qu'est-ce que je fais de mes services publics, est-ce que j'y vais ou pas, Michel Sauvade?
Absolument. Alors, c'est une interaction entre un service attendu et un service effectivement réalisé. Didier Jallet, le boucher de la boucherie du village à Marsac, se remet en cause, s'interroge sur ce qu'il doit faire pour évoluer. De la même façon que les habitants doivent s'interroger aussi.
Et Myriam Fougère, faut utiliser ces services publics puisqu'ils sont là.
Bien sûr, il faut y aller, il faut les utiliser, il faut les faire connaître. Je crois que c'est extrêmement important et si vous me permettez, j'aurais souhaité vous dire ce que disait un de nos auteurs locaux qui s'appelle Henri Pourra, peut-être en avez-vous entendu parler. Il disait lui, il faut s'intéresser à ceux qui sont façonnés au contact de la nature. Cette sorte de sagesse rieuse et visionnaire qui introduit la vérité. Je crois que c'est ça aussi un message d'espoir.
Merci à tous d'être venus à notre rencontre, même si c'est nous qui sommes venus aussi. Enfin, on s'est rencontrés. Enfin, c'est l'essentiel. Hein, voilà, on est tous là. Michel Sauvade, Madame le maire, Myriam Fougère, Sacha Leduc, merci d'avoir participé. Et merci à tous les intervenants de la première partie qui sont avec nous. On va refermer ces deux heures d'information avec François-Damien Bourgerie. Alors, ben, lui, il est hyper connecté. Hein, lui, on voulait pas. Hein. Pendant 5 jours, il a parcouru les routes de la France oubliée, de Paris jusqu'ici. 5 jours, 5 étapes, des problématiques variées avec, on a entendu, l'importance de la voiture, indispensable, les opérateurs téléphoniques, les zones blanches, la question d'Internet qui a été très importante. On retrouve vos reportages avec les photos de Pierre-René Worms sur le site de RFI. Et face à cette difficulté, comment réagissent ces gens que vous avez rencontrés ?
Eh bien, il y a ceux qui font avec. Parce que ça fait 30 ans ou 40 ans que les derniers services de proximité ont baissé le rideau chez eux. Et donc, ils sont habitués à devoir faire quelques kilomètres pour la moindre bricole. C'est le cas dans l'Allier où j'étais samedi. Et d'ailleurs, quand avant de venir, j'ai appelé un maire pour savoir comment faisaient ses administrés sans ses services de proximité, il m'a répondu « bah, on fait comme tout le monde », comme si c'était évident. Il y a ceux aussi qui se battent, qui montent des associations pour faire pression, comme le collectif Bienvenue chez les Gueux dans le Loiret que j'ai rencontré jeudi et qui demande à être raccordé au haut débit Internet et à une connexion mobile. Et puis il y a ceux qui essaient de trouver eux-mêmes des solutions. C'est le cas de Sébastien Cherrier, un brocanteur dans le Cher qui a transformé sa camionnette en bistrot ambulant. Depuis 3 mois, il s'arrête chaque soir dans un village différent où le bar a disparu pour recréer du lien social et redonner vie à des communes qui se meurent.
Merci François-Damien Bourgerie. Je renvoie à votre reportage, il est en ligne, sur nos environnements numériques de RFI. Merci à tous d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci à l'accueil qui nous a été fait à Amber, très, très chaleureux, ce qui nous fait dire que nous sommes des citadins, mais un peu des ruraux contrariés peut-être. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne journée sur RFI. Cette journée spéciale consacrée au service public se poursuit. J'aurai pas le temps de remercier toute la technique, mais c'est toute une caravane qui se déplace. Merci encore.